La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, philosophe dans la cité, Maritain nous invite à nous poser la question actuelle et brûlante de la laïcité. Jean-Christophe René poursuit la réflexion entamée la semaine dernière avec le père Claude Bressolette. Bonjour Jean-Christophe, et je dois dire devant nos auditeurs que cela fait des mois que nous attendons un débat contradictoire, interrompu pour mille raisons, le temps liturgique, une sorte de diasée dans la métaphysique, au profit de textes plus intérieurs sur l'horizon, sur la contemplation, sur la poésie, sur la liturgie. Nous vous retrouvons avec grande joie en cette fin d'année, et je vous remercie pour avoir participé la semaine dernière à une émission où le père Claude Bressolette nous a présenté de manière rapide, historique, mais très ciblée, les enjeux de la laïcité. Je vous donne la parole pour rebondir peut-être sur cette différence entre le système anglo-saxon et le système à la française. Et on pourrait partir de ce constat donné par Valentine Zuber. Aux États-Unis, il s'agit bien de préserver la liberté religieuse des individus et des groupes face à un État potentiellement autoritaire et liberticide.
Très bien, bonjour Claire et merci à nouveau pour cette invitation sur ce débat, à mon avis, extrêmement important dans le contexte actuel que nous vivons. Le père Bressolette a effectivement dressé un portrait historique très serré et très précis. Donc, je voudrais juste rappeler qu'en France, en tout cas, tout part de cette loi dite de séparation de l'Église et de l'État de 1905, contrairement à ce que certains voudraient faire croire dans les débats actuels, est une loi tout à fait mesurée qui a cherché essentiellement à écarter du débat des extrémistes des deux bords. Il faut bien voir que ce tournant du 19e et du 20e siècle a été une bataille acharnée entre les républicains d'un côté et les cléricaux de l'autre, avec des positions extrêmes dans les deux camps. Et donc Aristide Briand, voyant cela et voulant la paix sociale, en fait, a essayé de trouver une loi équilibrée qui a donné lieu à de nombreux débats. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que le point fondamental sur lequel on était resté, c'est que cette loi établit clairement la neutralité de l'État face au culte. Donc il faut aussi rappeler que le débat anticlérical de l'époque était un débat anticlérical dirigé essentiellement, majoritairement, contre le catholicisme, puisque c'était la religion dominante en France. Maintenant, avant d'en venir un peu, d'aborder les différences qui font que la laïcité à la française est souvent mal comprise à l'étranger, et en particulier dans les pays anglo-saxons, les États-Unis en tête, mais pas seulement, on trouve aussi des critiques assez acerbes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous l'avez rappelé, les mots de Valentine Zuber disent que aux États-Unis, en tout cas, la loi protège les cultes contre l'État. Bon, il faut nuancer un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans un aspect historique qui fait que les différentes migrations européennes qui sont arrivées aux États-Unis étaient essentiellement des gens qui fuyaient leur pays pour se protéger des États européens, non pas de l'État américain. Donc l'État américain ayant reconnu cela, a décidé que sa constitution devait garantir cette liberté du culte en protégeant les cultes. Bon, ce n'est pas la seule différence, on peut en revenir là-dessus. La prégnance du religieux dans la vie sociale américaine est beaucoup plus forte, par exemple, qu'en France. Il y a aussi une longue tradition anticléricale et, on va dire, athée, qui est beaucoup moins prégnante aux États-Unis. Alors, avant de venir un petit peu sur les détails, je pense qu'il faudrait montrer que cette notion de laïcité est une notion vivante, c'est-à-dire qu'elle évolue depuis la loi de 1905 jusqu'à nos jours. Et elle évolue tout simplement parce que dans son article 1 et dans son article 2, les interprétations de la loi peuvent être tout à fait multiples. Et comme l'a rappelé le père Bressolette, Jean Baudéraud a recensé 6 formes différentes de laïcité. Et les différentes formes de laïcité, on ne les a pas toutes eues en France, mais en tout cas, on est passé d'une forme à une autre suivant les périodes. On peut dire que jusque dans les années 50-60, la laïcité à la française a plus ou moins suivi le cours qu'elle avait à partir de 1923, à partir du moment où elle a été pleinement acceptée. Les choses vont commencer à changer en France, en particulier par la montée d'une religion qui n'existait pas jusqu'ici, qui est l'islam. Et donc je pense que c'est important de montrer ce point historique aussi, si on veut comprendre la situation actuelle et quelquefois l'hystérisation qui vient dans les débats suite à cette prise importante de l'islam dans la société française. Il faut avouer que l'islam aujourd'hui, c'est la deuxième religion en termes de pratiquants, donc ce n'est pas une religion minoritaire. Hein, c'est à côté, le judaïsme ou le protestantisme ont moins de pratiquants que l'islam. Bon.
Oui, et ce que vous dites est souligné justement par Valentine Zuber. Elle écrit que la non-ingérence est une fiction juridique. Tout ce qui se passe actuellement, avec ce que vous mentionnez, montre que l'État français n'a jamais abandonné le devoir qu'il s'est donné de régulation via l'élaboration d'une police des cultes assez exigeante. Cette régulation peut devenir de plus en plus tatillonne et c'est le cas actuellement dans les articles consacrés aux associations cultuelles dans le projet de loi confortant les principes de la République. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'islam, poursuit-elle, l'État est tenté d'accroître son action régulatrice et ce, jusqu'à contredire même l'idée essentielle de séparation portée par l'article 2 de la loi de 1905. C'est bien une évolution récente, mais qui s'enracine dans une histoire longue de gestion du religieux par l'État français où perdure une culture d'assujettissement du religieux au politique. Ces propos, donc dans la revue Études du mois de mai 2021, nous permettent un éclairage qui n'est pas forcément le seul. On a la contrepartie de Dominique Avon dans cet article que je vous recommande. Ces deux lumières données différemment sur la laïcité actuellement en France et qui correspondent à ces sensibilités différentes que nous avons tous les trois avec le père Claude Bressolette qui a animé l'émission la semaine dernière et vous, Jean-Christophe René, qui nous présentait aussi, je crois, votre foi, votre credo dans la profondeur, la souplesse et la tempérance, j'allais dire, de cette loi française sur la séparation de l'Église et de l'État, au détriment finalement contre une vision unilatérale qui voudrait la durcir.
Tout à fait. Alors, je voudrais quand même aussi apporter quelques nuances à ce que dit Valentine Zuber. Il faut bien voir que s'il y a effectivement un durcissement, et je la rejoins là-dessus, qui en arrive presque à une contradiction avec l'esprit de la loi de 1905 en s'ingérant de manière plus spécifique dans la religion. Et encore une fois, c'est pour ça que je pense que c'est important de montrer comment l'islam est venu en France en vagues successives et comment finalement l'État est tenté à travers cette loi de 1905 de se protéger non pas de la religion en général, non pas de l'islam en particulier, mais d'une radicalisation minoritaire d'une pratique de l'islam qu'on appelle l'islamisme pour faire simple. Bon, le wahhabisme étant un des aspects de cette radicalisation. Alors, je ne pense pas que l'État français tente de vouloir s'ingérer trop dans les affaires religieuses, mais il y a une spécificité de l'islam qui n'apparaît pas à travers les deux autres grandes religions monothéistes que sont le christianisme et le judaïsme, c'est que contrairement à ces religions, il n'y a pas d'instance religieuse de type église. Le problème vient de là, c'est que les imams sont nommés par leur père et pas à travers une église ni un cursus bien précis. Et je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles on a voulu faire une refonte de cette loi 1905, en essayant de rester le plus général possible, ce qui donne l'impression que l'État s'attaque aux religions, alors qu'en fait il s'agit de réguler une religion qui n'a pas les mêmes, structures, ou qui n'a pas de structure, ou qui n'avait pas les structures, en tout cas des structures qui ne dépendaient pas d'autorités contrôlées. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut avoir cette impression d'une mainmise de l'État sur le fait culturel. Je tiens aussi à souligner que cet aspect-là n'est pas présent aux États-Unis. Les musulmans aux États-Unis représentent environ 3,4 millions, si je crois me souvenir, sur 250 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est absolument infime. Le problème de l'islamisme aux États-Unis ne se pose pas à l'intérieur du pays. Le problème de l'islamisme aux États-Unis, ce sont des guerres à l'extérieur du pays. C'est l'Afghanistan, c'est l'Irak, c'est la Syrie, etc. C'est pas sur le territoire américain, donc les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Alors que les attentats en France se sont bien produits en Europe et en France.
Vous avez tout à fait raison d'insister sur cette différence qui peut être résumé à une question. Comment tolérer l'intolérable? La question n'est pas de moi, elle est de Valentine Zubler à la fin d'un raisonnement où elle dit que l'importance des catégories qu'il faut réintroduire pour comprendre la manière française de considérer le religieux, c'est celle de culte. Traditionnel en France, dans le vocabulaire politique, et le culte n'est pas la religion. Elle articule le culte à la conception chrétienne. Et vous avez fait la différence entre l'Église chrétienne et d'autres religions, et voici ce qu'elle dit. Ces dénominations particulières reflètent une certaine conception théologico-politique de ce qu'est la religion pour l'État, c'est-à-dire essentiellement un culte, donc une organisation institutionnelle particulière. L'État ne renonce pas à connaître les différents cultes, à dialoguer avec eux, et au besoin à les inciter fortement à s'organiser selon des modalités jugées compatibles avec celles propres à l'État républicain et à la pratique démocratique. On a toujours essayé de faire entrer dans ce modèle, qui est un modèle spécifiquement chrétien, d'autres sensibilités religieuses qui lui sont a priori étrangères, que ce soit le judaïsme à l'époque napoléonienne ou l'islam de nos jours. Le vrai problème posé à l'État laïque consiste à savoir jusqu'où il peut tolérer des doctrines professées publiquement qui ne veulent pas se plier au principe de tolérance dans leurs relations avec les autres cultes ou dans la société civile. Et ce point de vue rejoint ce que vous disiez sur l'Église et qu'on a entendu la semaine dernière dans l'émission de France Culture « L'Esprit public » survenue le samedi à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a eu lieu le lundi de cette même semaine, où il était remarqué par plus d'un intervenant, dont Hubert Védrine, que les valeurs laïques étaient des valeurs héritées du christianisme, en quelque sorte des valeurs évangéliques. Et pour donner un aspect philosophique à notre émission qui concerne la philosophie réaliste, je voudrais rebondir sur une vision de Jacques Maritain sur l'articulation du religieux et du politique. Pour lui, le religieux et le politique, tout en restant distincts, doivent être vitalement unis. Comment ? Ce n'est pas par des alliances d'apparat et de police extérieure, comme au temps du trône et de l'autel, c'est en nous. Là où est le royaume de Dieu, c'est dans notre cœur et dans notre vie privée qu'ils doivent d'abord et avant tout se joindre. C'est là que notre vie religieuse et spirituelle doit envelopper, diriger et vivifier du fond de l'âme nos préoccupations temporelles et politiques. C'est le feu même de la religion et de l'esprit qui doit rayonner en activité politique. Et le philosophe, comme nous savons tous, après un an de philosophie réaliste, s'appuie sur la différence entre agir en chrétien ou en tant que chrétien. Vous voyez tout de suite la nuance. En tant que chrétien, c'est une forme d'institutionnalisation, d'officialisation. Et en chrétien, c'est une sorte d'émanation qui part de l'intérieur et qui fera que l'action sera une surabondance de contemplation, de vie sacramentelle, de vie unitive au Christ. Et cette grande différence fait qu'on ne peut pas dissocier le religieux du politique. Bien sûr, Maritain fait intervenir un troisième terme qui est celui de la foi. Et à ce titre-là, le christianisme est tout à fait différent des religions dites du livre. On ne peut pas mettre dans la même perspective judaïsme, religion musulmane et christianisme, ou la religion de la parole, c'est le christianisme, et du coup qui engendre une vision de l'Église ekkaleo, appelée hors d'eux pour faire Église, Ecclesia, un rassemblement, et ce sortir d'eux, cet appelé hors d'eux qui s'articule sur l'appel et la réponse, pour reprendre un titre d'un phénoménologue disparu, Jean-Louis Chrétien, c'est aussi un sortir de soi-même, c'est-à-dire ce mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur, qui ne va pas opposer le politique et le religieux. J'ai été un peu longue, mais je voulais reconduire notre débat sur un plan philosophique.
Bon, tout à fait, vous avez raison de rappeler les arguments proposés par Jacques Maritain. Je voudrais quand même simplement noter que ce livre de 1936 s'appliquait pleinement à cette époque-là. Je ne suis pas très bien qualifié pour savoir s'il serait applicable aujourd'hui tel quel. En tout cas, il peut peut-être poser certaines bases. Là où je le suis, c'est qu'effectivement, il y a une sphère privée et une sphère, on va dire, publique. Maintenant, dès qu'on veut adresser le point de vue philosophique de la laïcité, on est obligé, évidemment, de parler de politique et voire même de pratique politique. C'est-à-dire que c'est souvent dans les détails que se trouve le défaut. Donc, c'est comment est-ce qu'on met en application des éléments de théorie tels qu'ils sont exposés. Je vais vous donner un exemple. Qui est un exemple qui est tiré de certaines réalités qui ont été observées en France. À partir du moment où des lieux de culte font des rassemblements de plusieurs centaines de personnes et où, par exemple, un représentant du culte fait un discours, un sermon pour ses ouailles et dans lequel il va décréter que la loi de Dieu est supérieure à la loi du pays dans lequel ils habitent, on voit bien qu'il y a tout de suite un conflit d'intérêts. Donc le rôle d'un État, comme son nom l'indique, l'État il est fait pour se préserver, hein, c'est la partie statique. Il veut essayer de se conserver dans son identité, même si cette identité peut varier au cours des siècles, voire même des dizaines d'années. Le rôle de l'État est bien de se préserver face à des discours qui pourraient laisser penser que la loi de l'État est inférieure à une autre loi d'origine divine ou pas.
Tout à fait.
Donc je pense que, évidemment, si on reste sur les sphères de la théorie, de la philosophie théorique, oui, c'est très beau, ça vole très haut, mais dès qu'on va dans le quotidien et dans la pratique, que doit être la politique c'est fait pour être pratiquée et éventuellement être changée ou modifiée en fonction de la pratique. Donc quand on observe certaines choses en pratique, et qui vont à l'encontre de la stabilité de l'État, on peut légitimement se poser la question de l'intervention de l'État afin de se préserver.
Et là, il s'agit d'un rapport de force, soyons clairs. C'est un rapport de force qui va poser la question de l'accord sur les règles fondamentales et notamment les droits individuels. Et là, je vous propose un extrait d'un commentaire de Dominique Avon sur ce problème actuel de la laïcité. Il dit « Ce n'est pas d'abord un problème de niveau de vie. Dans les 25 pays les plus riches du monde par habitant, 6 ont un lien officiel avec l'islam. Et plusieurs d'entre eux promeuvent en leur sein ou à l'étranger, avec des moyens considérables, une conception de la religion qui s'oppose sur plusieurs points aux droits de l'homme tels qu'ils ont été définis en 1948, et ce, sous le regard silencieux des démocraties, principalement pour des raisons économiques et stratégiques. Donc là, on voit bien que le rapport de force entre l'État et le religieux, il est aussi dépendant de l'économie.
Alors vous avez tout à fait raison de mentionner ça. Je pense même qu'il y a un deuxième niveau qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, on a une interférence extrêmement dense de ce qui se passe à l'international au niveau national. C'est-à-dire autant dans les années 20, 30, jusque dans les années 50, on pouvait se dire que tout se jouait au niveau national, les acteurs, les différents acteurs étaient au niveau national, autant aujourd'hui, des acteurs internationaux viennent interférer sur le débat national de par la globalisation d'une part des échanges et d'autre part de par l'arrivée de moyens de communication de type Internet, de réseaux sociaux où tout ce qui se passe aux antipodes du monde est connu immédiatement dans tous les coins du monde. Donc je pense que ça c'est un aspect extrêmement important si on veut comprendre le débat sur la laïcité aujourd'hui. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé lors de l'ouverture du procès en septembre 2020 des attentats du Bataclan et d'Hyper-Cacher, où, bon, suite à la republication des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo, immédiatement il y a eu des manifestations au Pakistan, en Afghanistan, en Indonésie, extrêmement violentes, contre l'État français, contre même, on va dire, non seulement l'État français, mais le peuple français dans son ensemble. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, tout se fait à découvert. Donc on ne peut plus se tenir isolé dans son propre pays. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que s'il y a une solution à trouver, elle ne peut pas être une solution de repli, de solution de type nationaliste, ou de même qu'en fermant les frontières, on se préserverait des virus de tout type, on pourrait se préserver de ce qui se passe dans d'autres coins du monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une vision absolument irréaliste.
Je vous remercie de souligner cette importance de l'international qui pose un autre problème sur lequel nous finirons notre année de philosophie réaliste, celui finalement du droit de l'homme. Le droit de l'homme, la constitution de 1948 est souvent remise en question au nom d'une occidentalisation de la pensée qui aurait oublié les droits asiatiques ou les droits islamiques ou autres. Et cela repose sur une vision de l'homme. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à l'homme qui permet la communicabilité des cultures ou au contraire l'isolation des cultures? Et c'est une autre manière de repenser la laïcité que nous poursuivrons la semaine prochaine. Il vous reste 30 secondes pour conclure, Jean-Christophe, et je vous remercie d'avance.
Merci à vous, Claire. Bonne journée.
Merci encore pour votre collaboration cette année. Peut-être finirons-nous la 4e émission de ce mois-ci par une parole libre que je vous donnerai sur la pertinence, finalement, d'une philosophie vitalement chrétienne telle que la conçoit Jacques Maritain. À bientôt. Au revoir.